Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso. Bonjour Odette du FC Que Choisir.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui, on va parler un peu du pot de, de terre contre le pot de fer. Hein. Sinistre habitation, comment se défendre face aux assureurs. Parlons déjà des experts en assurance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les experts et qu'est-ce qu'on peut constater sur ces experts en assurance?
Alors déjà, constater que les experts donc, qui interviennent suite à un sinistre sont là pour évaluer le préjudice.
Oui.
Le rôle de l'expert, donc, il est envoyé par l'assurance.
Hein, ouais.
La première expertise, c'est l'assurance qui va la mandater pour tous les sinistres supérieurs à 1 000 euros. En dessous, il n'y a pas, d'expert. Et donc, le rôle de l'expert, c'est de chiffrer le préjudice.
D'accord.
Et on a fait donc une enquête qui dit que 40% des personnes interrogées donc, suite à une expertise et à un sinistre sont extrêmement déçues par cette expertise. Donc, généralement, effectivement, le chiffrage est en dessous de ce qu'ils attendaient.
Ouais.
Et puis, il y en a 25% qui ont contesté les décisions.
Et pourquoi alors?
Alors pourquoi? Alors déjà, l'expert, donc l'activité d'expert n'est pas réglementée.
Ah oui.
Non, alors contrairement aux notaires, aux huissiers, aux experts comptables, etc., ce sont des professions réglementées.
Ouais.
Pour les experts, ce n'est pas le cas. Il y a une charte déontologique.
D'accord.
Ouais. Les experts, donc, on pense que ce sont des indépendants.
En fait,
ils ne sont pas si indépendants que ça, dans la mesure où ils sont souvent des salariés qui travaillent pour de gros cabinets.
D'accord.
Et donc ces cabinets, donc, dans le cahier des charges, c'est-à-dire que les assurances font des cahiers des charges pour trouver le cabinet avec lequel ils vont travailler. Et donc dans ce cahier des charges, il y a des critères qui sont de plus en plus sévères pour remporter les appels d'offres, c'est-à-dire que les experts font des offres alléchantes pour l'assurance pour être retenus.
D'accord. Ouais.
Et donc l'expert est lié à l'assurance.
De fait, évidemment.
Tout à fait. Et effectivement, Que Choisir a pu consulter des fiches de performance, donc ce sont des documents ultra confidentiels qui ont pu être consultés.
Ouais.
Et les compagnies d'assurance imposent des critères de performance très très importants.
Ouais, donc on comprend encore mieux comment l'expert est indépendant.
Il n'est pas indépendant du tout. Donc effectivement, les cabinets d'experts donc sont tenus en laisse par un système de notation, c'est-à-dire que les cabinets sont notés.
Incroyable.
Et donc s'ils veulent continuer à travailler, il faut que les chiffrages soient de plus en plus bas.
Bon, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a deux catégories d'experts, le bon et le mauvais expert?
Alors oui.
C'est un peu comme le sketch des inconnus. Hein. C'est quoi un bon expert, c'est quoi un mauvais expert?
Tout à fait. Donc le bon expert, il est ponctuel, c'est-à-dire si vous avez rendez-vous, il arrive le jour et l'heure prévue, il a préparé son rendez-vous, il sait de quoi il va parler, il écoute. Il respecte la victime, il prend le temps de faire le constat, de regarder, de faire des relevés, il prend des notes, il demande des justificatifs, factures, devis, photos, il explique pourquoi il est venu et il explique la situation, et il prend des mesures conservatoires, c'est-à-dire qu'il va dire de façon urgente il faudrait faire ça ou ça.
Ah, oui.
Et enfin il présente une première évaluation et il envoie son rapport rapidement, donc... au client, à l'assuré.
Ouais, effectivement. Et le mauvais expert, du coup?
Alors, le mauvais expert...
Il fait l'inverse, j'imagine.
Voilà, il fait l'inverse. Il impose sa date de rendez-vous sans savoir si, effectivement, l'assuré est présent ou pas. Il a une attitude désinvolte. Il arrive en terrain conquis. Il est condescendant. Il se montre expéditif. Il n'informe pas l'assuré. Il ne répond pas aux questions. Il est très pressé. Il passe très vite. Il fait un constat superficiel des dommages. Il ne tient pas compte des justificatifs fournis. Il donne des explications vagues. Il n'explique pas les options.
Évidemment.
Et il insiste pour imposer l'autoréparation, qui coûte beaucoup moins cher qu'effectivement
si
on fait appel à une entreprise.
Évidemment.
Et enfin, il ne fournit pas de raison en cas de refus d'indemnisation. Et alors, en plus, on a vu avec le Covid de plus en plus d'expertises en visio. Avec le smartphone, c'est-à-dire...
C'est sûr que c'est pratique pour bien voir...
Voilà, même sur effectivement des sinistres très importants du type sécheresse, où on a quand même, là, ce sont des montants exorbitants.
Bien sûr.
Où l'assuré fait le tour de sa maison avec son téléphone pour montrer les fissures.
C'est vrai que c'est bien pratique.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut s'opposer au refus d'indemnisation des assureurs? Est-ce qu'on peut le faire d'abord?
Alors, on peut le faire, tout à fait.
Ouais.
C'est prévu dans la procédure.
Ouais.
Alors, les différents arguments qui vont être mis en avant par l'expert. Donc, il y a d'abord le défaut d'entretien.
D'accord.
Alors, c'est effectivement avancé par les assureurs, mais pas considéré par les tribunaux comme un motif valable pour refuser l'indemnisation.
D'accord.
Si le contrat écarte la garantie en cas de négligence de l'assuré et que ça va au tribunal, ce ne sera pas retenu.
D'accord.
Ce sera une clause nulle et abusive.
Okay.
Alors, on peut donner un exemple pour un dégât des eaux. Les canalisations sont vétustes. On va vous dire, donc, si vous avez un dégât des eaux, c'est parce que vous avez des canalisations vétustes. Elles ont été mal entretenues. Pour les incendies, ça va être une cheminée mal ou pas ramonée. Alors là, il faut qu'effectivement l'assureur prouve que ce problème est à l'origine de l'incendie. C'est-à-dire que l'incendie est bien dû au fait que la cheminée n'ait pas été ramonée.
D'accord.
Ou que le dégât des eaux vient du fait que... Les canalisations sont vétustes, c'est pas toujours le cas.
Ouais, fois,
ça n'a rien à voir.
Et j'ai si c'est pas le cas, du coup, les tribunaux seront plus indulgents, du coup.
Ah bah, ils donneront effectivement tort à l'assureur.
On est d'accord. Autre motif qui permet de contester le refus d'indemnisation.
Alors, il y a la déclaration du sinistre hors délai. C'est quelque chose qui est mis très souvent en avant. Ouais. Alors, les contrats indiquent souvent un délai, souvent 5 jours. c'est une recommandation, ça n'est pas une obligation légale.
D'accord.
Et donc pour que parce que à ce moment-là, l'assureur peut dire, vous n'avez pas fait la déclaration dans les 5 jours, mais quelquefois j'étais pas là, j'ai pas vu, etc. Il doit prouver, donc l'assureur, que le retard de déclaration lui a créé un préjudice. C'est-à-dire que peut-être le sinistre a été augmenté si on attend un mois pour le déclarer.
D'accord, ok, oui, donc ok. Déclaration non conforme.
Alors la déclaration non conforme, c'est quand je vais souscrire le contrat d'assurance, faire très attention, c'est-à-dire ne pas dire je vais mettre une pièce de moins, ça coûtera moins cher. Parce que là, ça revient en boomerang quand il y a un sinistre. Donc, si la description du bien fait lors de la souscription ne correspond pas à la réalité, par exemple, le nombre de pièces, c'est quelque chose qui est très courant. On se dit, oh, c'est une pièce au premier étage, je ne vais pas la mettre.
Grave,
L'assureur lui va dire, c'est une fausse déclaration. Et le législateur, lui, autorise seulement à diminuer le montant. C'est-à-dire que si vous avez 5 pièces et vous en avez déclaré 4, il y a 20% de moins.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, mais par contre, l'indemnisation doit avoir lieu quand même, du coup.
Okay, il va y avoir une indemnisation, mais effectivement, c'est quand même très important, parce que 20% sur une grosse somme,
beaucoup. C'est mieux que rien, exactement. les déménages confondus ou indissociables.
Alors, c'est si vous avez le même problème plusieurs fois de suite, l'assureur peut dire, mais je vous ai déjà indemnisé pour ce problème-là. Et en fait, c'est pas, il faudrait qu'il prouve que c'est en rapport, c'est-à-dire que c'est parce que ça n'a pas été réparé ou mal réparé qu'il y a à nouveau ce sinistre.
D'accord.
Et ça n'est pas automatique.
Un autre motif, l'indemnisation limitée à la partie abîmée.
Alors, par exemple, vous avez un dégât des eaux, vous avez 2 murs qui sont abîmés dans la maison. Et bon, quand on refait, par exemple, une salle de séjour, on ne va pas refaire 2 murs sur 4.
En général, oui.
Voilà, donc le principe, c'est de remettre l'assuré dans les mêmes conditions qu'il était avant. Donc, on doit aussi prendre en charge la peinture des 2 murs qui n'ont pas été touchés. Si, on peut juste mettre un petit peu de vétusté.
Ils omettent souvent de vous le préciser, ça.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous allez peindre seulement 2 murs et laisser les 2 autres dans l'état initial.
Un autre motif, la configuration du terrain en cas de sécheresse. Ça, c'est un truc qui revient très souvent, surtout dans nos régions.
Voilà, dans nos régions en ce moment.
Et dans cette période,
Voilà. Et quelles que soient les assurances d'ailleurs, on a effectivement beaucoup de sinistres dus à la sécheresse.
Oui.
Alors, l'expert, dans un premier temps, il va toujours trouver un autre motif que la sécheresse. C'est-à-dire qu'il va venir, il va voir qu'effectivement, il y a des fissures. Et il va dire que, alors si vous avez des arbres, il y a les racines qui sont dans les fondations, et c'est ce qui a créé les fissures. Donc bon, c'est pas les arbres qui créent des fissures, au pire, ils accentuent les dégâts.
D'accord.
Et donc pour ce qui est de la sécheresse, il faut demander à l'assurance absolument une étude de sol, puisque c'est le seul moyen de voir si effectivement la fissure est due à la sécheresse ou pas.
Okay.
L'étude de sol qui va voir si...
Donc l'étude de sol est importante. Elle doit être prise en charge par l'assureur ?
Elle doit être prise en charge par l'assureur.
Très bien. Pour équilibrer l'expert d'assuré.
Alors l'expert d'assuré, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est une profession qui est très mal connue. En fait, il y a des experts qui ne sont pas des experts d'assurance, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés par les assurances, qui sont indépendants. Ils sont indépendants donc juridiquement et financièrement.
Ok.
Et ils sont au service des assurés pour faire des contre-expertises. Sont souvent des ingénieurs en bâtiment ou des architectes ou des maîtres d'œuvre ou des anciens experts d'assurance qui à un moment en ont eu un petit peu marre de se faire dicter leurs décisions. Souvent ce sont de petits cabinets et donc leur mission c'est estimer les dommages après le sinistre.
D'accord.
Voilà. Donc c'est l'assuré qui va contacter cet expert d'assuré. Mmh. L'expert d'assuré va faire une réclamation chiffrée, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à l'assurance. Il va lui aussi chiffrer le préjudice.
D'accord.
Et puis après, il va négocier avec l'expert de l'assurance.
Okay.
Et là, il parle d'égal à égal, puisqu'ils ont les mêmes connaissances.
Bien sûr,
Donc il va négocier avec l'expert d'assurance ou avec la compagnie d'assurance.
D'accord. Il intervient sur tout type de sinistre ?
Oui, surtout sur les gros sinistres. Plus de 30 à 40 000 euros. Ouais. En général, tous les sinistres sécheresse sont au moins dans ces chiffres-là, effectivement. Ou un incendie, ça peut aussi... Donc, c'est l'assuré qui va rémunérer cet expert.
D'accord.
Alors, très souvent, c'est un forfait ou un pourcentage sur ce qui aura été remboursé. C'est-à-dire qu'il ne va pas demander tout de suite...
d'être réglé.
Tout à fait. Mm-hmm. Alors, l'intérêt, il faudrait faire appel à lui le plus tôt possible. Ouais. Parce qu'en fait, si on fait appel à lui dès le début du sinistre, en se disant « j'ai un peu peur », etc., il va venir en même temps que l'expert de l'assurance... Et donc, les personnes peuvent parler d'égal à égal. Et puis, ça lui évite, parce que c'est toujours gênant, d'être obligé de faire reconnaître à son collègue son erreur.
Oui.
Quelquefois, il doit le faire.
Bien sûr.
Alors, l'activité n'est pas plus réglementée que celle des experts en assurance.
Oui.
Mais alors, il y a une fédération qui s'appelle la FEDEXA. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on dit, ce qu'on préconise aussi, c'est que ces experts d'assurés, alors il y en a certains qui aussi ne sont pas sérieux,
ils
vont tout de suite vous demander une somme importante en disant que vous allez avoir des dommagements très importants.
D'accord.
Et donc là, voilà, ne pas signer. Il faut pas y aller. Il faut effectivement aller chez ceux qui vont déjà venir voir le problème.
Oui, d'argent. Ouais.
Voilà, avant de parler d'argent et qui vont vous dire, on verra après en fonction de ce que vous allez. Récupérer ou ce que vous allez gagner pour la rémunération.
Mais c'est intéressant parce qu'en moyenne, c'est doublement ou triplement de l'indemnisation qui peut être obtenue grâce à l'expert d'assuré.
Voilà.
Et on le trouve comment, cet expert d'assuré ? C'est l'assuré qui le cherche ?
Oui.
D'accord.
Enfin, bon, nous, nous, effectivement, on a un expert d'assuré avec qui on a une convention et où on envoie, effectivement, nos adhérents quand il y a un problème. On leur conseille très fortement d'aller voir. Dès qu'on a un dossier sécheresse ou un dossier très important, on leur dit, on vous conseille de contacter cette personne. Et puis, voilà.
Vous...
Et elle vient tout de suite et elle est très... Voilà,
Je rappelle, vous, Odette, que c'est l'UFC Que Choisir.
Tout à fait.
Et qu'on vous trouve comment l'UFC Que Choisir, si justement on a besoin de solliciter l'expert d'assuré que vous connaissez.
Alors, on nous trouve, donc on a nos permanences qui sont au 76 rue de l'Hache. On peut prendre des rendez-vous par téléphone. Mm-hmm. Je ne connais pas le numéro par cœur.
On le trouvera sur Internet.
Voilà. On nous trouve aussi sur notre site Internet, nancy.ufcquechoisir.fr. Et on peut aussi donc ne pas prendre rendez-vous physiquement si on ne veut pas se déplacer ou si on maîtrise Internet. On peut tout à fait soit prendre rendez-vous via notre site Internet, soit même déposer un litige en ligne. C'est-à-dire qu'on pose sa question, qu'on soit adhérent ou non. On va répondre dans un premier temps à la question, les premières réponses. Et après, si on doit prendre le litige, on demande à la personne d'adhérer et on peut suivre. On suit des dossiers entiers sans jamais voir le consommateur. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de se déplacer.
Merci Odette, on retrouve ce podcast sur le site internet www.rcn-radio.org, sur YouTube également, et on vous retrouve donc sur les réseaux et le site internet du FC Que Choisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.